I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. On se retrouve, comme tous les mois, pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité. Et ce mois-ci, c'est une invitée que j'ai déjà eu la joie d'avoir dans l'émission. Elle est programmatrice et journaliste pour l'émission Story Movies diffusée sur OCS. Et on peut également retrouver sa plume et ses analyses dans le magazine dédié au cinéma de patrimoine revu et corrigé. C'est Esther Brejon. Salut Esther.
Salut Thibaut.
Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Tu étais là dans les tout premiers épisodes d'Année Lumière il y a plus d'un an. On avait parlé de l'année 61. Et du coup, je suis très content de t'avoir de nouveau avec moi pour parler d'une autre année de cinéma.
Merci pour l'invitation.
Aujourd'hui, on s'attaque donc à une année assez spéciale, une année de petite révolution, de retour en gloire, de grandes peurs et de passage de témoins. Au programme, La prisonnière du désert face aux soucoupes volantes, la naissance du mythe Bardo et une palme d'or d'un genre pas comme les autres. Bref, c'est parti pour l'année 1956. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Oh, ne sois pas cruel, on écoutait ça en 1956, Don't Be Cruel d'Elvis Presley. Mais ce n'est pas tout, la même année, le monde guettait d'un œil inquiet la crise du canal de Suez et d'un autre plein d'espoir les indépendances du Maroc et de la Tunisie. Les gens lisaient l'affaire Tournesol de Tintin, la marque jaune de Black et Mortimer et la nouvelle Rapport minoritaire de Philip K. Dick qui sera adapté en 2002 par Steven Spielberg sous le nom de Minority Report. Au même moment, la société IBM créait le tout premier disque dur d'une capacité de 5 petits mégaoctets. On célébrait la première édition de l'Eurovision et dans un registre plus solennel, la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais 1956, c'est aussi et surtout du cinéma. Dans les salles cette année-là, on se ruait sur les films d'aventure, les grandes fresques comme Michel Strogoff, Guerre et Paix ou Les Dix Commandements avec Charlton Heston. On riait du duo Gabin-Bourville dans La Traversée de Paris, on admirait James Dean dans Géant et Romy Schneider dans Sissi Impératrice, et on frissonnait devant L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. Et cette année-là, deux genres massifs du cinéma américain vont s'entrechoquer. L'un quitte doucement son âge d'or, l'autre le débute seulement. Leurs courbes de popularité vont alors se croiser et raconter au passage quelque chose du cinéma, des spectateurs et de la société américaine. Bref, on est parti pour notre premier thème. Ah, qu'il est beau ce thème musical principal de La prisonnière du désert, réalisé par John Ford avec John Wayne, Vera Miles, Natalie Wood, et qui est le grand western de cette année 1956. Et pourquoi on parle de La prisonnière du désert de John Ford dans ce premier thème? Simplement parce que les années 50 et 56 en particulier, ça va être une décennie de passage de témoins entre deux genres, le western donc, et la science-fiction. C'est un peu le syndrome Toy Story, c'est-à-dire d'un côté le cow-boy qui est remplacé par le ranger de l'espace, et c'est donc dans cette décennie 50, c'est ça qui va se passer. Le public est donc moins attiré par le western, et l'intérêt grandissant par contre de l'autre côté pour la science-fiction se confirme. Alors, La prisonnière du désert, ça raconte très très rapidement une histoire très simple. On est en 1868, le ranch des Edwards est attaqué par des Indiens et la famille tuée, et l'oncle Ethan, qui est donc joué par John Wayne, apprend la nouvelle et part à la recherche de ses deux nièces disparues au cours de l'attaque. Et là, du coup, se lance un film qui est donc un classique du genre du western. Toi, t'as dû revoir, du coup, Esther, La prisonnière du désert pour ce podcast. C'est un classique du western. C'est un film que t'avais sans doute déjà vu. Ouais. Qu'est-ce que t'en as repensé, du coup, dans cette nouvelle vision?
J'avais des vagues souvenirs, mais j'avais oublié à quel point c'était un un film aussi beau, qui est un classique du cinéma sans être un western classique.
Ah, ça c'est intéressant ce que tu dis, effectivement.
Parce que, en fait, Ford prend des éléments qu'on retrouve dans ces westerns, le lieu déjà, les paysages sublimes de Monument Valley. On retrouve évidemment les figures de John Wayne, des Indiens, etc. Mais c'est vrai qu'il va comme casser tout ce qu'il avait créé dans ses précédents westerns des années 40 avec La Prisonnière du désert. Il remet tout en question.
Alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis, effectivement, Esther. On va remettre un petit peu de contexte. Tu l'as dit, La Prisonnière du désert, quand on parle du western, on parle forcément un petit peu de ce film. Donc c'est un film 56 en couleur avec un John Wayne qui est un petit peu déjà effectivement âgé. Il faut rappeler que John Ford et John Wayne, c'est plus de 23 collaborations, même beaucoup plus, il me semble, qui reviennent même jusqu'au début des années 20, dont notamment La Chevauchée fantastique, qui est un grand western qui est sorti en 1939 et qui, à l'époque, avait révolutionné le western, qui était un genre un petit peu bâtard, un peu série B, un peu pas du tout noble.
Ouais.
Et la Chevauchée fantastique était sortie et avait ébloui tout le monde et avait passé le western dans ce qu'on appelle l'âge classique, et donc ce genre tout de suite un petit peu noble. Et là, tu dis que La Prisonnière du désert prend tout ce que La Chevauchée fantastique a créé et le modifie un peu, le casse un peu, le change un peu. De quelle façon
Bah déjà, c'est à travers le visage de John Wayne,
qui est l'icône du western, s'il en est.
Mais qui est totalement différent dans ce film, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, c'est plus du tout le John Wayne qu'on a vu dans les précédents films. C'est un homme qui a des parts d'ombre, c'est un homme qui est assez antipathique, qui n'est pas forcément apprécié par le spectateur. C'est un homme qui est très ambivalent, qui est raciste, qui est désagréable, qui est violent. Voilà, il n'est pas du tout agréable, il a plein de zones d'ombre. Et moi, ce que j'adore, c'est que Ford pose des questions sur ce personnage, soulève des questions, mais auxquelles il ne répond jamais.
Pour ceux qui nous écoutent, vous avez peut-être effectivement cette idée d'un John Wayne, d'un héros de western complètement glorifié, extrêmement moral, extrêmement droit, extrêmement honnête, extrêmement fort aussi moralement. Et là, on se retrouve donc 20 ans après cette image forte du cow-boy. Et là, comme tu l'as dit, on a plutôt un anti-héros.
Ouais.
Il y a moins ce manichéisme-là. C'est-à-dire qu'avant, dans le western classique, on avait vraiment les Indiens, c'est les méchants, les cow-boys, c'est les gentils. T'avais vite fait un politique véreux ou un banquier qui voulait prendre de l'argent. Et le cow-boy était toujours cette figure qui remettait l'église au centre du village. Il était cette figure morale, on va dire. Pour parler de La Prisonnière du désert, là, on en discute effectivement. Comment tu décrirais en un mot La Prisonnière du désert?
C'est un film plus noir, je dirais, plus amer que les autres westerns de John Ford, et en même temps qui montre une Amérique totalement idéalisée. C'est vraiment... C'est magnifique, c'est ce premier plan de Martha, de l'ombre de Martha dans la maison. Le film s'ouvre avec ce plan-là. Il faut en parler, je pense, pour essayer de comprendre le film. C'est le surcadrage de l'image, du plan, parce qu'on a l'intérieur de la maison, donc qui est sombre, qui est noir, et on a la porte qui est ouverte, et derrière, le paysage du désert de Monument Valley. Et ça, c'est comme si John Ford disait, ça c'est l'écran cinématographique. On ouvre l'écran, on allume l'écran, je vais vous montrer ce que c'est un western, mais un nouveau western, je vais vous montrer, et à travers... ça, c'est je vais vous montrer ce que c'est l'Amérique. Et moi, j'ai trouvé ça très beau, mais en même temps, c'est très mélancolique. Il y a un discours, à un moment, il y a la mère de Laurie. Laurie, c'est la fiancée de Martine, qui passe tout le film à l'attendre. Elle parle des Texans, elle fait un éloge des Texans qui ont un petit lopin de terre et qui doivent survivre, qui doivent souffrir pour ce petit lopin de terre. Et en fait, oui, ils n'ont pas une vie facile, ils ont une vie très dure, mais ce sera pour leurs descendants, et un jour, peut-être que leurs descendants seront heureux. Moi, j'aime bien cet éloge-là de ces Texans, de ces Américains qui vont s'accrocher à un petit morceau de terre pour construire une famille, pour construire un groupe, pour faire société. Et je trouve que c'est ça aussi ce dont Ford parle dans ce film, c'est cette Amérique de gens qui cherchent à s'enraciner, d'immigrés, d'enfants d'immigrés, qui essaient de trouver leur identité culturelle au sein d'un pays, d'un territoire qui n'est pas facile.
Et qui est massif, qui est bigger than life, véritablement. Ford, qui est immigré irlandais, rappelons-le. Moi, j'ai trouvé que dans La Prisonnière du désert, et on retrouvait déjà certaines thématiques, certains aspects de ce qu'on appelle le western crépusculaire. Alors, western crépusculaire, pour les gens qui nous écoutent, c'est un type de western qui est apparu dans les années 60, où on avait du coup un western qui était beaucoup plus rugueux, beaucoup plus laid à voir, un peu dirty, un peu avec vraiment des héros qui n'en étaient pas, et qui montraient le côté violent, le côté sanglant, le côté un peu voilà, extrême du western, loin des images d'Épinal, on va dire, du western classique. Et c'est donc une variation du genre, le western crépusculaire, qui arrivait plutôt dans les années 60. Et là, on est en 56, et déjà, je trouve que Ford, comme tu disais, il nous montre déjà des aspects du genre qu'on va retrouver 10 ans plus tard. Et j'étais en train de me dire, est-ce que La Prisonnière du désert n'est-il pas le premier western crépusculaire avant l'heure,
quoi? Oui, sans doute. C'est vrai que ça fait déjà plus de 15 ans que le western, du coup, a acquis ses lettres de noblesse, comme tu l'as dit, avec La Chevauchée fantastique en 1939. Donc c'est vrai que le western a besoin de se renouveler. Ce film, il porte en lui les ferments de la modernité. Ouais. Il a vraiment quelque chose de moderne qui annonce les westerns des années 60. C'est clair. Ouais.
Cette année 56, on a donc La Prisonnière du désert, on en a parlé, grand western, immense western, qui redéfinit un petit peu le genre à sa manière. Et de l'autre côté, on a un autre genre, la science-fiction, qui gagne en popularité, qui va gagner en estime. Alors déjà, pour faire un contexte assez bref, hein, la science-fiction a déjà depuis les années 30, les années 40, en littérature, gagné un petit succès d'estime. On a déjà des Isaac Asimov qui arrive avec la trilogie des robots, on a Ray Bradbury qui arrive avec les chroniques martiennes. Donc c'est un genre qui, déjà dans les cercles littéraires, avant d'arriver sur les écrans, passe doucement effectivement d'un genre très populaire, un petit peu sale, à quelque chose d'un peu plus estimé, avec des œuvres assez fondatrices. Et dans les débuts des années 50, on a en science-fiction des films comme Le jour où la Terre s'arrêta, La guerre des mondes, Destination Lune, Godzilla, même des films qui vont être assez emblématiques et qui vont fixer ce genre dans l'imaginaire collectif. Pourquoi la science-fiction, soudainement, dans les années 50, elle devient cool? Pourquoi ce genre-là, qui était un genre de niche un petit peu avant, subitement arrive et sur les écrans, les gens vont le voir et les gens s'intéressent? Pourquoi on a ce syndrome Toy Story? Pourquoi le ranger remplace le cowboy? Et ça, c'est ça qui m'a toujours un petit peu intéressé. Toi, t'as pu réfléchir à cette question-là,
ouais,
de ton côté?
En fait, j'ai l'impression que le public, au bout de voilà, 15 ans de western, enfin de cinéma, ou d'âge d'or du western, donc pendant les années 40 et années 50, a envie d'autre chose. Le public avait envie de plus se tourner vers le passé, parce que le western, en fait, ça parle de ça, de la conquête d'une nation.
19e siècle, etc.
Voilà, et en fait, la science-fiction, qu'est-ce que ça représente? C'est le futur. La civilisation extraterrestre, c'est toujours une civilisation qui est plus avancée que la civilisation occidentale, et même ils ont toujours des avancées technologiques, scientifiques, des robots, des soucoupes volantes, des machines qui éliminent en deux secondes les gens. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est un attrait pour les avancées technologiques,
le futur
et scientifiques, et en même temps un peu de peur. Hein. Ça nous fait peur, mais on a quand même vachement envie de voir ce que le futur peut nous offrir.
Il y a sans doute effectivement beaucoup de ça dans ce que tu dis, dans cette émergence de la science-fiction. On peut d'ailleurs remarquer, si vous regardez le nombre de productions par genre, on peut vraiment voir qu'il y a une chute de production de western dans les années 50, et il y a une augmentation assez vive de production de science-fiction à ce moment-là. Donc il y a vraiment ces courbes qui se croisent. Tu as quand même un événement qui va être majeur, qui va faire switcher les mentalités. Ça va être quand même la Seconde Guerre mondiale. C'est que dans la Seconde Guerre mondiale, on a subitement un ordre du monde qui va être bouleversé. On a plein de frontières humaines, physiques, technologiques qui vont être repoussées. L'USA, les États-Unis vont devenir soudainement les gendarmes du monde. Et surtout, on a l'arrivée de la bombe atomique. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est littéralement inhumain dans les années 40, qui arrive, qui fait des dégâts que l'espèce humaine n'a jamais vus à son échelle. Et soudainement, l'inimaginable va devenir possible. On va rentrer dans ce qu'on appelle un âge atomique, et du coup, ça va vriller, beaucoup les esprits. Et du coup, ça va. J'ai lu que ça allait effectivement donner de l'intérêt pour les gens, avec de l'intérêt pour de la science en général. De dire, l'être humain a pu faire ça. Du coup, les gens vont être poussés à se dire, ah bah tiens, la science, et donc la science-fiction va gagner en intérêt dans les années 40-50, parce que les gens vont être obnubilés par, on a fait quelque chose complètement inhumain avec cette bombe atomique. Et il y a deux événements qui vont être importants aux États-Unis dans ces années 40-50 aussi, pour expliquer la montée de la science-fiction et l'intérêt du public. C'est en 47, on va avoir Kenneth Arnold, qui est un Américain, qui va voir des ovnis au-dessus du Mont Rainier aux États-Unis. Et surtout, il y a l'affaire Roswell. Et ces deux événements qui vont arriver à peu près au même moment vont lancer une espèce de folie et du public américain pour les UFO, pour les ovnis, qui vont du coup, et chacun va y aller de son « Ah, j'ai vu ma grand-mère se faire kidnapper par les aliens ». Et à l'époque, les gens ont les journaux, les gens ont les informations au compte-gouttes, on n'est pas comme maintenant avec des réseaux sociaux. Donc, si quelqu'un, un fermier, dit qu'il s'est fait enlever sa vache par une soucoupe volante, comme on peut le voir dans des images de science-fiction maintenant, parce qu'on en rigole, à l'époque, c'était vraiment pris. Voilà. Et Roswell, encore une fois, a un impact assez massif. Mmh. Et ça peut être deux, trois des raisons, effectivement, qui ont lancé cet intérêt pour la science-fiction. Et pourquoi, du coup, on parle de la science-fiction en 56 ? C'est quand même une grosse année de science-fiction. On a plusieurs films, notamment Planète Interdite de Fred Wilcox, qui est un film, donc Forbidden Planet, si vous l'avez. Vous avez sans doute déjà vu ces images de Robbie le robot, qui est un robot assez, assez particulier, qui porte dans ses bras une jeune femme. Ça, c'est Planète Interdite, qui est un film très, très coloré, assez emblématique. On a Les Soucoupes Volantes Attaquent, qui est également assez un film important, de Fred Sears. L'Invasion des Profanateurs de Sépulture, de Don Siegel, qui est également un classique. Donc plein de films comme ça, qui vont être des jalons, qui vont fixer le genre dans cette année-là précise. Et toi, Esther, tu m'as dit que ce genre de la science-fiction, c'est pas forcément ton genre de prédilection.
Non.
Et moi, je t'ai dit, on va en discuter. Donc, je t'invite à voir effectivement ces films. Tu les as vus très gentiment. On a un space opéra assez flamboyant en couleurs, aux effets assez impressionnants. On a Les Soucoupes Volantes Attaquent, comme tu disais, c'est littéralement des Américains et les soucoupes volantes, comme dans Mars Attaque de Tim Burton,
qui
tape dans les monuments, le Colisée, etc., les monuments américains. Et on a Don Siegel, L'invasion des profanateurs de sépulture, qui est un drame...
Avec les codes du film noir.
Avec les codes du film noir, et qui est de la science-fiction, un peu de voisinage, un peu, véritablement.
Et les trois n'ont pas vieilli du tout de la même manière, ça c'est assez incroyable.
Absolument pas. Et du coup, lequel t'as préféré d'ailleurs ?
Évidemment le Don Siegel.
D'accord,
mais
pour quelle raison ?
J'ai adoré, donc c'est L'invasion des profanateurs de sépulture.
Tout à fait.
En fait, ce film, pour moi, il a les qualités de ses défauts.
Ouais.
C'est-à-dire que ses défauts, c'est que ça a un budget totalement ridicule. C'est 400 000 dollars.
Mm-hmm.
Don Siegel, il est habitué à réaliser des films avec vraiment une économie de moyens. C'est un spécialiste de ça. 400 000 dollars, il faut savoir que c'est 10 fois moins que le budget de La Planète Interdite. Voilà, clairement, il n'a pas d'argent pour faire d'effets spéciaux. Donc, au lieu d'essayer de faire des effets spéciaux mal faits, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et donc, vu qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, ils ne sont pas obsolètes vu qu'ils sont absents. Donc, il va... trouver des moyens de remplacer l'absence d'effets spéciaux pour faire grandir l'attention.
Ça raconte quoi les invasions des profanateurs des sépultures pour les gens qui ne l'auraient pas vu ?
C'est dans une petite bourgade, il y a un médecin qui revient après plusieurs semaines d'absence et il y a plusieurs personnes qui viennent le voir à chaque fois qui ont le même constat, c'est-à-dire que quelqu'un dans leur entourage n'est plus la même personne.
Donc ils ont toujours l'aspect de la personne, mais ils ne les reconnaissent plus.
Ils ne les reconnaissent plus. Il y a quelque chose qui a changé dans leur comportement. Et petit à petit, en fait, ça va toucher de plus en plus de gens et ils vont se rendre compte que c'est une invasion d'extraterrestres à travers des cosses.
Exactement.
Dans lesquelles grandissent des nouveaux...
Des clones, un peu.
Ouais, des clones.
Des clones.
Ouais. Qui vont prendre la place des gens normaux.
Donc ça, c'est déjà une histoire assez atypique. Donc c'est un film, donc c'est un classique qui a été remaké de nombreuses fois dans les années 70. Récemment, on a eu The Invasion avec Daniel Craig et Nicole Kidman qui était encore un remake de ce film-là. Qu'est-ce qu'on arrive à lire de la société américaine tête à travers qui t'a intéressé ?
Alors, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites qui disent que ça parle en fait du McCarthyisme. Parce que donc le film, c'est d'essayer de savoir qui a changé, qui n'a pas changé dans ce film, qui a été remplacé par un extraterrestre, est-ce que mon voisin, est-ce que mon oncle, est-ce que ça a beaucoup été considéré comme une métaphore du communisme à l'époque du McCarthyisme. Est-ce que mon voisin est communiste ?
Parce qu'effectivement, on évoque ça, mais en 56, on a parlé de la bombe atomique, on a parlé du nouvel ordre mondial, et on est en pleine guerre froide.
Ouais.
Les États-Unis sont complètement dans cette guerre froide avec la Russie, et les États-Unis ont peur de la venue du communisme sur leur terre, et donc le McCarthyisme, c'est ce mouvement politique qui va surveiller la population américaine pour éviter que le communisme se répande à travers les esprits américains, et notamment dans les petites villes. Et c'est un peu, comme tu disais, un peu un film là-dessus.
Moi, c'est pas ce qui m'a sauté aux yeux.
Ouais.
Quand je l'ai vu, je me suis dit aussi, est-ce que ce serait pas aussi une dénonciation de l'uniformisation de la société américaine ?
Ah, intéressant.
Tu vois, de cette petite vie dans des villes résidentielles, le petit pavillon, la petite maison, on va tous être pareils, en fait. C'est ça aussi l'objectif de ces extraterrestres, c'est il faut tous qu'on soit pareils. On n'aura plus d'émotions, on n'aura plus de problèmes, il n'y a plus d'amour, mais c'est pas grave. grave. L'idée, c'est de vivre dans un monde totalement apathique. Ça signifie aussi la mort de l'âme, mais en fait, c'est ce qu'il faut pour que la société, tout se passe bien, tout marche bien, et qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça veut dire, ce monde apathique, c'est pas de révolte, de diversité dans les pensées politiques. Tu vois, j'ai l'impression que ça dénonçait ça aussi, en fait, cette espèce de modèle de l'American way of life, où on a notre petite maison, notre famille, et on se pose plus de questions, voilà, et on va pas chercher de problèmes. Ouais.
Effectivement, on a ce film-là qui dit aux spectateurs américains, attention à votre voisin, s'il parle bizarrement, c'est peut-être qu'il y a un problème. Alors peut-être qu'effectivement, ça met en garde contre le communisme, peut-être que ça met en garde contre, on va dire, la pensée unique américaine. Et de l'autre côté, on a La Soucoupe Volante Attaque, qui est un film sur simplement les États-Unis qui sont attaqués par une force extraterrestre, une force alien, une force extérieure. D'un autre côté, on a Planète Interdite, qui est donc une histoire, c'est vraiment un space opéra pour les gens qui l'auraient pas vu, où un équipage d'une soucoupe volante va arriver sur une planète et on se rendra compte que il y a un scientifique qui habite sur cette planète-là et qui a, on va dire, un pouvoir un petit peu démesuré. Et c'est un film qui se termine sur une phrase assez forte qui s'appelle « Nous ne sommes pas, après tout, des dieux, nous ne sommes que des humains ».
Non, mais Forbidden Planet, en tout cas, je trouve que même si c'est pas du niveau de l'invasion des profanateurs de sépulture, c'est très intéressant. Je trouve que c'est aussi à revoir. Pour le coup, il n'a pas autant vieilli que l'attaque des soucoupes volantes.
C'est tout le décorum de la science-fiction. Hein. C'est vraiment la soucoupe, les robots, les grandes couleurs magnifiques.
Ouais. Ça, c'est génial. Ça, ils se sont dit, on va se faire plaisir. Ouais. Quoi. On est sur une nouvelle planète. Donc ça, c'est génial. Il y a plein de trouvailles. Le ciel qui est vert, la végétation.
Des effets visuels qui sont de l'animation dessinée. Ouais. C'est très, très beau.
Des studios Disney, d'ailleurs.
Exactement.
Ouais. Et j'ai bien aimé, en fait, le message. Je trouve que, finalement, un haut niveau de connaissance ne signifie pas forcément l'instauration de la paix dans le monde. Ah. Et qu'en fait, il y a toujours un danger lié à
donc
ça.
Donc, à travers ces trois films de science-fiction, on a comme ça des peurs de société américaine de cet âge atomique, c'est-à-dire effectivement l'apocalypse nucléaire, la montée du communisme, la paranoïa, etc., etc., etc. Donc voilà, pour ce premier thème, La Prisonnière du désert d'un côté, ces films de science-fiction de l'autre. Et tous ces films-là nous racontent, nous disent des choses sur ces figures du cinéma américain qui évoluent, sur la société américaine qui évolue dans cet âge atomique. Et on va filer sans plus tarder vers notre second thème de cette année 1956. Et Dieu créa la femme de Roger Vadim avec Jean-Louis Trintignant, Christian Marquand et évidemment et surtout Brigitte Bardot qui va être le centre de notre second thème de cette année 1956 puisque ce film va être la source, l'origine, la confirmation de ce qu'on appelle le mythe Bardot. Avant 1956, Bardot, c'est déjà quelque chose, ça existe déjà, c'est déjà un personnage public qui est connu. Et moi, au sens là, j'aurais envie de te poser la question simplement, c'est qui Brigitte Bardot?
Alors, c'est une jeune actrice qui a déjà fait la couverture de plusieurs magazines féminins, qui a joué des petits rôles dans des films, par exemple Le Trou Normand.
Ouais, elle a déjà joué 17 films, effectivement, avant ce film-là.
Mais elle n'est pas encore la star internationale qu'elle s'apprête à devenir. Hein. C'est quand même Et Dieu créa la femme qui fait d'elle une immense vedette.
On parle de mythe Bardot. Alors, pour les gens qui nous écoutent, Brigitte Bardot, c'est peut-être une figure assez lointaine, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas tellement présente dans le... on va dire dans le paysage médiatique actuel, à part pour ses sorties homophobes ou racistes de temps à autre. Brigitte Bardot a commencé en tant que mannequin dans les pages de Elle Magazine et dans d'autres magazines. Et je sais qu'en 56, au Festival de Cannes notamment, elle crée un peu l'événement puisqu'elle arrive et c'est une magnifique femme. Brigitte Bardot, elle a 22 ans, il me semble.
Ouais.
Et il y a déjà un petit phénomène Bardot avant même ce film-là. Elle remue un peu les ménages, elle remue un peu ses mœurs, elle impose déjà une sorte de personnalité qui dérange un petit peu. Et du coup, Et Dieu créa la femme, le film arrive en novembre 1956 sur les écrans. Donc Et Dieu créa la femme, ça raconte à Saint-Tropez trois hommes qui vont se disputer le cœur indécis de la belle Juliette, jouée donc par Brigitte Bardot. Toi, comment tu le qualifierais, ce personnage de Juliette, pour les gens qui n'ont pas vu le film? Alors, tu disais qu'elle était libre.
Ouais, c'est un personnage très libre. Donc c'est une jeune orpheline qui a été adoptée là, depuis un an, qui n'est pas encore majeure, par une famille, un couple de personnes âgées, mais ça se passe pas bien. Oui. C'est un personnage qui n'en fait qu'à sa tête. À un moment, Carradine, le personnage dit Carradine, dit d'elle, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, quand ça lui chante. Donc c'est vraiment ça, elle agit comme elle a envie d'agir, sans se poser de questions. Et en ça, elle incarne une liberté totalement nouvelle qu'on ne voyait pas beaucoup chez les jeunes femmes de l'époque des années 50.
Oui, on est en 56, encore une fois, Bardot, elle a que 22 ans. Et puis... Ouais. Eh ben, elle est un peu insolente, elle est provocatrice plus qu'insolente, ouais. Et surtout elle est libre. Et cette liberté-là, de voir une jeune fille qui laisse pousser ses cheveux, laisse voler au vent, porte des vêtements comme elle a envie de les porter, se comporte avec les hommes en allant les bousculer dans leur petit territoire, etc. Ça te dérange en 56.
Elle met à mal en fait toutes les conventions sociales, quoi.
De l'époque.
Moi, il y a une scène que j'adore, c'est la scène du repas de noces. Donc elle vient de se marier avec Trintignant, et il y a toute la famille qui se met à table, et en fait les deux mariés montent dans la chambre et ils redescendent pas.
Et elle
finit par redescendre en robe de chambre et elle se sert un énorme plateau de nourriture. Elle prend une bouteille de vin et puis elle remonte dans la chambre. Et toute la famille regarde ça estomaquée. C'est ça, elle met à mal les conventions de l'époque, la société française des années 50 qui est encore hyper conservatrice.
Oui, très religieuse, très conservatrice.
Et patriarcale.
Et du coup, ce Bardot, ce film-là, son personnage va bousculer les mœurs de l'époque et va créer un scandale, va créer une petite révolution au sein de la société française, puisque ça va poser des questionnements. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont être outrés. Il y a beaucoup de, je sais que c'est un film qui va être interdit dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis, certaines scènes, parce qu'on a effectivement une Bardot qui est peu vêtue parfois, une Bardot qui est aussi beaucoup sexualisée, on va en parler plus tard. C'est une révolte contre les dictats bourgeois, un peu la morale et les valeurs bourgeoises de la société française, c'est-à-dire la religion, etc. etc. Et c'est un personnage, et Juliette et Brigitte Bardot, qui invite quand même à l'émancipation de la femme à plein de niveaux, quoi. Qui est en train de dire à la femme, ça c'est possible.
Surtout que le film s'ouvre avec Bardot nu, en train de bronzer dans son jardin, derrière un drap, donc on voit juste ses jambes. Ouais. Et il y a Carradine qui arrive, donc ce riche, ce homme d'affaires qui essaie de la courtiser pendant tout le film sans succès. Et elle est comme ça, elle est à poil, il la voit totalement à poil et elle en a rien à faire.
Genre, ça vous gêne plus que moi je m'en fous, j'ai mon corps, etc. C'est drôle parce qu'on a parlé d'émancipation et Bardot, avec ce film-là et avec son attitude, va devenir un symbole féministe. C'est drôle. Elle va même être reprise par Simone de Beauvoir qui va dire de Bardot, elle va nu-pied, elle tourne le dos aux toilettes élégantes, aux bijoux, aux parfums, au maquillage, à tous ses artifices, elle marche, elle danse, elle bouge, elle fait ce qui lui plaît et c'est cela qui est troublant. Simone de Beauvoir, symbole du féminisme français, va prendre Bardot comme, encore une fois, une icône et va dire cette femme-là, elle a tout à fait raison de faire ça.
Mais c'est incroyable parce que Bardot, quand on écoute des interviews de l'époque, elle n'est pas spécialement féministe. Donc elle va devenir une icône de l'émancipation féminine, alors qu'elle-même ne l'est pas tellement. Ouais, en fait, ce qui est fou, c'est que c'était Bardot un phénomène social. Donc c'était un sexe symbole. C'était une star internationale et c'est aussi un phénomène social. C'est-à-dire que, alors qu'elle est encore vivante, qu'elle est très jeune, dans les années 50-60, ça y est, il y a les plus grands intellectuels français qui se mettent à écrire sur elle. Elle devient en fait un objet d'étude. Donc c'est vraiment... tu vois, il y a Simone de Beauvoir, comme tu l'as dit, mais il y a aussi Cocteau, Marguerite Duras, il y en a plein qui vont écrire sur elle. Donc c'est vraiment... Elle a bousculé le cinéma français, la culture française et la société française. C'est ça qui est assez incroyable. Elle devient précurseur de la libération des femmes parce qu'elle prend de la place. En fait, la jeune femme, la jeune fille à l'époque, c'est une jeune fille qui doit être discrète. Elles ont toutes les cheveux courts. Les jeunes filles à l'époque, c'était comment elle s'appelait cette coupe, petite tête, ça s'appelait. Donc les actrices de l'époque, elles avaient toutes les cheveux courts. Elle a une crinière comme ça qu'elle n'attache pas, qu'elle laisse détacher. On n'a pas l'habitude déjà de voir ça dans les films des années 50.
Bien sûr.
Elle elle prend de la place et en fait elle fait des choses qu'aucune femme n'a jamais osé faire, c'est-à-dire qu'elle assume son désir, parce qu'en fait elle couche avec des hommes et elle s'en fiche de sa réputation, ouais. Elle s'en fiche de, parce que tout le monde en fait la juge par rapport à ça, et en fait elle assume son désir et elle assume d'avoir envie de se faire plaisir. Trintignant lui dit tu m'aimes, et elle dit je sais pas mais j'aime ça, en tout cas j'aime ça,
voilà.
Donc et voilà, elle assume son plaisir sexuel, et c'est vrai que ça c'est...
Et... Au-delà même de la
nouveauté.
Du statut de la femme, elle questionne en disant « Regardez le mariage, on a 20 ans, pourquoi on a envie de se marier très très vite ?» Avec Trintignant, ça se fait effectivement très très vite. Et elle est en train de dire « J'ai le droit d'avoir des sentiments qui sont changeants, j'ai le droit d'avoir des sentiments qui sont forcément pas fixés dans le temps, qui, j'ai le droit d'aimer plusieurs personnes et j'ai le droit d'aimer des gens en dehors d'une structure maritale, d'être régie par des émotions qui ne sont pas forcément cadrées par une société, etc. »
Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'elle est mariée avec Roger Vadim, le réalisateur du film.
Exactement.
Et elle a une relation avec Trintignant pendant le tournage. Et ça, c'est, enfin voilà, tout le monde le sait. Trintignant en a parlé, elle aussi en a parlé. Ils ont une relation passionnelle.
Et elle va quitter Vadim pour Trintignant après, d'ailleurs, pour rester un an avec lui.
Et lui, il quitte Stéphane Audran,
voilà,
avec qui il était marié.
Donc, on l'a dit, effectivement, Bardot va bousculer la société française, va être une figure internationale, parce que ça va devenir un phénomène aux États-Unis, dans le monde entier. Il va y avoir des magazines, Brigitte, il va y avoir des choses. Bah, bref, elle va être liée à plein de choses, plein d'imaginaires. Tout le monde va écrire sur elle, comme tu l'as dit. Et pourtant, elle, au-delà aussi, en plus d'être ce symbole-là, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir rentrer dans ce moule de la star. C'est quelqu'un qui va vouloir, justement, se dire « Bah non, vous faites de moi une star, mais moi... » Le fait d'être une star de cinéma, ça ne m'intéresse pas. Comme tu dis, c'est un peu la Juliette de Éduquer à la femme. Elle dit, bah, moi, je fais un peu ce que je veux. Et Bardot va même arrêter le cinéma en 73, après seulement 48 films et 20 ans de carrière, on va dire. Et donc, va arrêter cette carrière plutôt très, très tôt. Elle applique, on va dire, dans la réalité, dans sa vie, ce que le personnage de Juliette dit dans le film. C'est-à-dire, le cinéma, ça m'a plu un moment. Ça ne me plaît plus, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Et du coup, depuis 73, elle a pris un peu de recul. Et effectivement, on n'en entend pas parler, mais elle est encore parmi nous. Elle doit avoir 85 ans ou 86 ans actuellement. Et je voulais en profiter pour passer un petit extrait d'interview. On est en 69, on est dans l'émission 5 colonnes à la une. Et la journaliste France Roche, justement, interview Brigitte Bardot sur qu'est-ce que c'est le mythe Bardot et comment elle se sent par rapport à ça.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que les scénaristes ou les adaptateurs qui vous écrivent des histoires qui ne vous conviennent pas complètement sont impressionnés par le mythe Bardot, qui vous montre, disons, un peu comme une bécassine pas très bien élevée qui serait douée de sex appeal et à qui on pardonnerait un certain nombre de
défauts. Non, les gens s'imaginent que je suis le personnage de Dieu créé à la femme. J'ai été peut-être, pas exactement le personnage de Dieu créé à la femme, mais ce personnage me collait à la peau il y a 3 ans. Maintenant, dans la vie, j'ai évolué, j'ai vieilli, j'ai changé, et évidemment, les rôles que j'aimerais interpréter maintenant... Je voudrais qu'ils aient aussi évolué dans le même sens.
Ça, vous êtes devenu anti-Bardot.
Acharnée.
La plus acharnée
des anti-Bardot.
Je suis la plus acharnée des anti-Bardot par Brigitte Bardot elle-même, justement pour illustrer le fait qu'effectivement, c'est quelqu'un qui ne voulait pas être dans le moule, même le moule du mythe Bardot dans lequel on la mettait le plein pied. Toi, Esther, tu m'as dit, bon, on parle de Dieu et Dieu créa la femme. On parle de Bardot, mais il faut absolument qu'on discute du male gaze.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que ce male gaze dont tu veux qu'on parle? C'est un terme qu'on entend de plus en plus ces temps-ci. Mais c'est vrai que « Et Dieu créa la femme », on a un très très bel exemple. Qu'est-ce que c'est que male gaze?
C'est vraiment l'incarnation du male gaze dans toute sa splendeur. C'est le male gaze, c'est le regard masculin de la caméra sur le corps féminin, qui morcelle le corps féminin pour le fétichiser. C'est une expression de Laura Mulvey, une historienne américaine. C'est ça qui fait que le film est très ambivalent, en fait. C'est que oui, elle incarne l'émancipation féminine, et en même temps, elle est totalement sexualisée et érotisée. C'est là aussi que Vadim est très bon, c'est qu'il construit un personnage féminin très ambivalent. C'est un modèle d'émancipation et en même temps, c'est un pur fantasme. Il disait le fantasme impossible des hommes mariés. C'est un peu dérangeant. C'est vrai que s'il y a des moments, la scène du mambo à la fin du film qui est extrêmement connue,
dont on a entendu la musique là, effectivement,
Où elle danse, elle est prise dans une espèce de transe où elle danse au rythme de la musique.
Scène magnifique.
Voilà, où elle est. regardée par les hommes autour d'elle, qui sont autour d'elle, et en même temps, il y a la caméra qui détaille son corps. C'est vrai que de toute façon, son corps, on le voit pendant tout le film. C'est vrai que sa plastique, comme tu as dit, parfaite. C'est vrai que c'est quand même un peu dérangeant, cet aspect-là, où elle est aussi une femme objet, quoi. On sent le désir de Vadim et des hommes pour elle, dans la manière dont elle est filmée.
Mais comme tu dis, c'est le cœur conscient du film. C'est, regardez, on vous montre cette personne-là, et littéralement cet objet-là de désir.
Ouais, c'est ça, une femme
et
objet.
Et en même temps, dans l'essence du personnage, elle le questionne. Elle questionne ce cœur-là. Elle dit, regardez, vous me regardez moi, Bardot, et en même temps, je vous contredis à chaque scène. Ouais. Regardez comme je suis belle, et en même temps, je fais ce que je veux.
Ouais. C'est très ambigu, en fait. C'est ça. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais moi, ça m'a quand même un peu dérangée.
Ouais.
D'ailleurs, en fait, la violence, en fait, des réactions autour d'elle dans le film, donc la violence de toute cette ancienne génération qui incarne aussi, en fait, l'ancien monde, quoi, le cinéma de papa.
Bien sûr.
Tous ces gens qui la maltraitent, qui ne la supportent pas, parce que aussi pour ce qu'elle dégage, parce qu'elle est libre, mais aussi parce que c'est une sorte d'objet sexuel, quoi. Et en même temps, les réactions aussi de l'époque, les critiques, mais il faut voir la violence des critiques, quoi. Il y en a qui parlent d'animal femelle, il y en a qui parlent de femme poupée. Et en même temps, c'est vrai que, bah oui, elle a quelque chose de très sexuel, et Vadim joue avec ça, et pour moi, c'est un peu dérangeant, quoi. Ouais.
Et Vadim, qui est donc, rappelons-le, hein, Roger Vadim, le réalisateur du film, qui est donc son mari à l'époque, hein, ils sont mariés en 52, donc 4 ans avant, donc ça donne encore une autre grille de lecture, parce que c'est un mari qui filme sa femme dans ces situations-là, véritablement.
Oui, et d'ailleurs, on a beaucoup dit, et Vadim créa Bardot après ce film, parce que c'est vraiment grâce à ce film... réalisé par son mari, qu'elle devient extrêmement connue. Et elle a renversé le truc, elle a dit, et moi aussi, mais moi j'ai créé Vadim.
Ça c'est drôle, ça, ouais. Effectivement, parce que ça retirait complètement le crédit de Bardot dans la création de ce personnage, alors qu'elle en est partie prenante.
Et en fait, c'est elle qui devient une véritable star. Après, lui, il réalise des films, mais je veux dire, on s'en rappelle pas très bien de la filmographie de Vadim.
Non.
Elle a pas marqué l'histoire du cinéma, alors que les films de Bardot, bah, c'est les films de Bardot, quoi. On s'en rappelle parce que Bardot est dedans.
Parce que c'est le mythe Bardot, justement. Ouais. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière. On est toujours avec Esther Brejon, journaliste de cinéma. Et on est parti pour notre troisième thème de cette émission sur 1956.
À 50 mètres de la surface, des hommes tournent un film. Munis de scaphandres autonomes à air comprimé, ils sont délivrés de la pesanteur. Ils évoluent librement. Pour faire ce film, ils ont promené leur caméra à travers Méditerranée, Mer Rouge, Océan Indien, Golfe Persique, à la découverte d'un monde étrange, presque inconnu, le monde du silence.
Quelle introduction mystérieuse et pleine de promesses que cette introduction du film Le Monde du Silence de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle. Le Monde du Silence qui est le documentaire de cette année 1956, puisque c'est un film qui va notamment réunir 4,6 millions de spectateurs en salle, qui est pour l'information encore le record de tous les temps pour un documentaire en salle. Donc c'est assez impressionnant. Et le film ne va pas évidemment s'arrêter là, puisque Le Monde du Silence est également la palme d'or du Festival de Cannes en cette année 56, et il va gagner l'Oscar du meilleur documentaire en 57. Alors il faut savoir qu'en plus d'être la palme d'or du Festival de Cannes, il faut savoir que dans l'histoire du Festival de Cannes, il y a juste eu deux palmes d'or qui ont été remises à un documentaire, Le Monde du Silence donc, et Fahrenheit 9/11 en 2004, donc ça... montre bien en coin ce film-là, cette année-là, est assez particulier. Le Festival de Cannes, cette année-là, en 56, ne va pas s'arrêter là, parce qu'en plus de la Palme d'Or donnée au Monde du Silence, il va remettre le Grand Prix à un autre documentaire qui va s'appeler Le Mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot. Et hors compétition, il va laisser une place à Nuit et brouillard d'Alain René, encore une fois un court-métrage documentaire sur la Shoah. Pourquoi dans les années 50, le documentaire comme ça arrive à ce niveau-là, arrive à être reconnu, arrive à avoir une palme d'or? Tout simplement parce que la technique a évolué, que les caméras sont de plus en plus petites, deviennent de plus en plus portatives, le son également, et du coup, une nouvelle génération de cinéastes qui arrivent, comme Alain René, Chris Marker, Jean Rouch, peut permettre de faire prendre sa caméra et d'aller filmer des choses dont on n'a pas forcément l'occasion de filmer. Et Le Monde du Silence en est un très très bel exemple, puisque c'est un documentaire qui va nous montrer pour la première fois des images tournées à 70-80 mètres de profondeur. C'est-à-dire que le public français, pourquoi ils sont 4,6 millions à aller en salle, c'est qu'ils vont voir littéralement des images qui pour nous sont tout à fait banales, on va dire, les poissons, des choses comme ça. On a vu Le Grand Bleu, on a vu tout ça. Mais en 56, c'est phénoménal. On va voir du corail à 80 mètres de profondeur, on va voir des poissons qu'on n'a jamais vus. Donc c'est vraiment assez, assez phénoménal et c'est pour ça que c'est un succès populaire et donc critique. Esther, tu m'as dit, écoute, on cherche un thème pour cette année Lumière 56. Ça peut être bien de parler effectivement du film documentaire en 56. Pourquoi c'était intéressant? Pourquoi c'était important pour toi qu'on discute du documentaire en 56?
Ouais, parce que pour moi, le savoir que ces trois documentaires sont sortis en 56, c'est vraiment un signe que ce genre est en train de se faire une place à part entière dans le cinéma. Et qu'en plus, Le Monde du Silence a eu la Palme d'Or cette année. Ce fait-là, c'est que ça montre un peu le triomphe du documentaire d'une certaine manière. Les gens ont besoin de vérité, ont envie de voir la réalité au cinéma. Moi, je l'ai trouvé intéressant de parler de ces trois documentaires parce que je trouve que, à leur manière, ces trois documentaires explorent les mystères de l'homme et de la terre.
C'est-à-dire que
merci.
Le Monde de Silence, donc Le Mystère Picasso et Nuit et brouillard.
Voilà, ouais. Les mystères de l'homme dans ce qu'il peut faire de plus beau, c'est-à-dire l'art et la création artistique Le Mystère Picasso. Le mystère de l'homme dans ce qu'il peut faire de pire, l'extermination et le génocide. Et les mystères de la planète Terre et en quoi en fait on connaît finalement pas bien encore le monde parce que la mer et le monde sous-marin est un territoire encore totalement inconnu et inexploré.
Comment est-ce qu'on pourrait décrire Le Monde du Silence pour les gens qui ne l'ont pas vu? Parce que c'est un film qui est peut-être un petit peu connu comme ça quand on s'est cinéphile. C'est quand même une Palme d'Or, c'est quand même réalisé aussi, co-réalisé par Louis Malle, qui au passage avait 24 ans quand il a réalisé le film. Donc il a la Palme d'Or à 24 ans, c'est officiellement le plus jeune lauréat de la Palme d'Or à 24 ans, donc ça te lance une carrière. Et en plus, Louis Malle, hein, on connaît la carrière qu'il a eu après, parce qu'il va faire Ascenseur pour l'échafaud, Asie dans le métro, Revoir les enfants et plein d'autres effectivement films assez formidables. Comment on pourrait le décrire aux auditeurs qui nous écoutent? C'est un film qui, on l'a vu avec l'intro, un film assez mystérieux, mais qui a une structure et qui a une façon de raconter les choses assez spéciale.
C'est vraiment, il a tout d'un film de fiction. Il a des personnages principaux, les plongeurs, l'équipe de Cousteau, des personnages secondaires, les poissons, les tortues.
Qui ont des noms même parfois.
Voilà, les dauphins, il y a des ennemis, les requins. Il y a des décors sublimes, il y a de la tension. Il y a de la découverte, il y a de la surprise, il y a des moments durs. Donc moi, je trouve que ça a tout, en fait, ça remplit vraiment le cahier des charges d'un film de fiction, quoi.
C'est un documentaire romancé, quoi. Ouais, il y a vraiment des...
Ouais. C'est un film qui est... Au début, on se dit, oh là là, c'est vrai que c'est magnifique. Moi, je les connais, ces images de poissons. Ouais. J'en ai déjà vu, les documentaires à la télé. Et en fait, oui, on est quand même très surpris par la beauté.
C'est beau. Ouais, on est sur la Calypso, donc ce bateau du commandant Cousteau. On a ces images, il fait beau, la mer est bleu, effectivement, et c'est drôle. Moi, j'avais l'impression qu'on voyait un peu Steve Zissou, là, le film de Wes Anderson, La vie aquatique. C'était un peu... Bah, La vie aquatique, effectivement, s'inspire beaucoup du Monde du Silence par beaucoup d'aspects, avec tout cet équipage très atypique, avec chacun leur personnalité, comme tu disais. Ouais.
Puis il y a des scènes magnifiques, c'est magnifique, mais jusqu'à un certain point,
alors,
jusqu'à un moment.
Justement, pour les gens donc, qui n'ont pas vu Le Monde du Silence, donc là, on en tire des éloges, on en dit des éloges assez impressionnants, parce que c'est un film qui est très beau visuellement, c'est un film qui a vraiment une ambiance, vraiment, il crée un monde, encore une fois, assez bien à lui, bien unique. C'est un documentaire qui montre donc des images sous-marines assez rares pour l'époque, mais qui va nous montrer également le dynamitage de coraux, le dynamitage de poissons, des gens, des hommes qui vont maltraiter des tortues, qui vont s'amuser avec des tortues, qui vont faire des actes de barbarie sur des animaux comme des cachalots, comme des requins. Et c'est un film qui, quand on le regarde, on est atterré de voir des gens qui se revendiquent comme des spécialistes, des scientifiques de la...
Et des amoureux
de l'océan. Ouais. Il y a une scène phénoménale où les gens ils disent « Bon, le seul moyen de savoir combien il y a de poissons dans un corail, c'est de dynamiter le corail et de récupérer les poissons morts. Et c'est le seul moyen de savoir quels sont les poissons qui vivent dans le corail. C'est le seul moyen. On est désolé. » Et ils le font et ils dynamitent et tous les poissons morts sont récupérés. Et c'est horrible. Il y a des scènes comme ça qui nous laissent méduser.
Cruel.
Quoi.
C'est totalement cruel. Et c'est pour ça que je reviens sur tout ce que je viens de dire. Malgré tout ça, ne voyez pas ce film. Mais enfin, moi, j'ai trouvé ça atroce.
Est-ce qu'il faut ne pas voir ce film?
J'ai trouvé ça horrible. En fait, on est témoin d'une souffrance animale dont eux ne sont pas du tout conscients. Je trouve que la scène, l'agonie du bébé cachalot, enfin, c'est vraiment mais la cerise sur le gâteau. Cette scène, elle est insoutenable.
C'est un bébé cachalot qui se prend dans l'hélice de la Calypso. Alors,
en fait, il y a un moment, on se dit, mais ils sont débiles. Ils sont débiles parce qu'ils voient des cachalots et hop, bah, ils vont mettre le bateau. Le bateau va tourner, va aller vers les cachalots. Et bah, évidemment, il y a deux cachalots qui blessent, dont un bébé cachalot qui se prend l'hélice.
Qui est blessé, qui saigne,
mais là on voit tout le sang.
Les autres cachalots attendent le bébé parce qu'ils savent, c'est les cachalots, et du coup, et là les requins arrivent parce qu'ils sont attirés par le sang.
D'abord, ils le tuent, voilà, parce qu'ils veulent mettre fin aux souffrances de ce bébé cachalot, et après il y a les requins qui arrivent, attirés par l'odeur du sang, pour manger le cachalot.
Et là, ils défoncent les requins.
Et là, en fait, c'est ça le pire. C'est à un moment, il y a une phrase comme quoi c'est tous les marins du monde détestent les requins, et donc là, ils vont défoncer les requins. Je suis désolée, mais j'aime pas les requins. Mais il y a un moment, faut respecter le vivant. Enfin, ils ne respectent pas. En fait, ce qui est fou, c'est leur domaine de travail, leur passion, la nature, l'océan. Ils ne le respectent pas. Et ça, mais c'est révoltant. Mais moi, je trouve que c'est tellement en fait le film d'une époque. C'est ce film, il aurait jamais la Palme d'Or aujourd'hui. Ce film,
mais surtout pas là.
il ferait scandale. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, mais c'est cruel. C'est dégueulasse. Il y avait un article qui était sorti il y a quelques années, ce film naïvement dégueulasse.
Et justement, c'est ça qui est intéressant avec Année Lumière, c'est qu'on aime bien mettre les choses en perspective. Et là, on vient de passer 10 minutes à dire que c'est la Palme d'Or, qu'il y a eu 4,6 millions de spectateurs qui sont allés le voir en salle. C'est formidable, c'est un film extrêmement populaire. Et en même temps, quand on le regarde aujourd'hui, c'est un film naïvement dégueulasse, pour reprendre les termes de Gérard Mordillat, qui est un auteur et cinéaste qui disait ça en 2015. Là, tu disais, il faut pas le voir ce film. Est-ce qu'il faudrait pas le voir, justement, pour voir l'évolution? Parce que, pour remettre du contexte, on est en 56, la conscience écologique n'est pas encore présente. La conscience écologique va vraiment arriver dans les années 60, on va prendre conscience de tout le monde qui nous entoure. Et comme on le disait au début, Cousteau, il disait, nous, quand on va en 56 ou dans les années 50 dans notre océan, l'océan, le monde sous-marin est un monde inconnu. Toutes ces ressources pour nous sont illimitées.
Voilà, c'est ça,
il dit à l'époque, on s'en rend pas compte.
On pense encore à l'époque que les ressources de la mer sont illimitées.
Exactement.
Donc c'est sûr que ça les dérange pas de faire ça. Moi, j'accuse pas non plus Cousteau et son équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde ça avec la conscience écologique qu'on a tous, et on est révolté. Mais c'est juste que moi, ça m'a pas fait du bien en fait de voir de la souffrance animale entre un moment le poisson, le diodon, tu te rappelles le gros poisson plein d'eau qu'on voit mourir en direct
sous nos yeux, quoi.
C'est triste. C'est quand ils s'assoient tous sur des tortues, ils veulent faire une course de tortues, ils écrasent les tortues. Enfin, je pense que on peut le voir parce que c'est intéressant. Et que c'est beau, mais il faut avoir le cœur bien accroché, quoi.
Ouais. Comment 65 ans de cinéma ont pu mettre, et 65 ans ont pu mettre une distance avec un film qui auparavant était idolâtré, était érigé en modèle, gagné la Palme d'Or, et maintenant on le regarde d'un autre œil.
Ouais.
Alors, pour parler des autres films de documentaires qu'on a évoqués au début, donc on a Le Monde du Silence dont on a parlé, on a également Le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot. Donc, pour le définir, c'est Henri-Georges Clouzot qui filme Pablo Picasso. Le célèbre peintre à l'œuvre, littéralement. Donc, on est en train de le voir dessiner, et puis on peut voir effectivement son processus de création. Et on a Nuit et brouillard d'Alain René, qui est un court-métrage documentaire qui dure 30-35 minutes, qui est un mélange d'images actuelles, qui est un film donc sur l'Holocauste, sur la Shoah, sur la mémoire de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et donc de l'Holocauste, avec des images actuelles des camps en 56 qui sont évidemment complètement décharnés, désossés, bien sûr, et il n'y a plus personne dedans, avec des images d'archives également, mais également des collages, des photos, et il y a ce montage comme ça avec toutes ces images hybrides qui font une espèce de court-métrage composite. Trois documentaires très très différents. Quel est celui qui t'a le plus touché, toi, dans ces trois documentaires dont on parle là?
Nuit et brouillard, clairement, parce que même si on connaît cet aspect très sombre de l'histoire mondiale, donc du génocide, de la Seconde Guerre mondiale, je trouve que c'est toujours en fait nécessaire de revoir des images comme ça, que pour le coup, c'est le seul documentaire qui n'a pas perdu de sa force, de son... de sa puissance et qui n'est pas démodé. Parce qu'il montre des images, voilà, toutes les images des rafles, des trains, des camps, des gens entassés, qui sont nus, qui sont rasés, qui sont torturés, des cadavres, des crématoires, on voit tout ça. C'est des choses qu'on connaît, qu'on a appris à l'école. C'est toujours utile, en fait, de se faire rappeler cet élément-là de l'histoire et de... pour raviver la mémoire des camps. En fait, le temps passe et petit à petit, les survivants disparaissent. Et en fait, ce film est là pour nous rappeler que oui, ça a existé et que c'était atroce.
Sachant qu'en plus, on est en 56, seulement 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui a été commandé pour les 10 ans, effectivement, de l'Holocauste. Et Alain René en fait donc cet objet complètement saisissant que moi personnellement j'ai découvert et je m'en suis souvenu en le voyant, mais je l'avais déjà vu et on me l'avait montré au lycée et je me souviens très très vivement, j'ai souvenir très vivace d'avoir la nausée. Ouais. Je sais que quand j'ai vu ça à 15 ans, on nous avait montré le film donc qui dure 35 minutes, j'étais sorti du cours complètement nauséeux parce qu'on voit des images
dures.
Extrêmement dur. On voit des charniers, on voit des corps humains de gens donc décédés, transportés comme du bois, transportés comme de la boue, mis dans des charniers. C'est des images extrêmement dures. Je pense que oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est peut-être le film le plus marquant parmi ces trois documentaires de cette année 56. Et il y a cette phrase assez folle. Alors, je sais plus si je l'ai noté parce que je fais mal mes devoirs, mais il y a cette voix off d'Alain René.
Michel Bouquet.
De cette voix de Michel Bouquet, pardon, très très bien écrite, avec des mots extrêmement forts.
Ouais.
Il faut savoir qu'Alain René, quand il fait ça en 56, il termine son court-métrage par. Et qui est donc responsable ?
Ouais, c'est ça.
Qui est responsable de tout ça ? Si toi tu n'es pas responsable, si le gardien du camp n'est pas responsable, si le médecin n'est pas responsable, si le SS n'est pas responsable, qui est responsable de ça ? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu responsables en tant qu'être humain de ce qui est arrivé là ? Et qu'est-ce qui nous empêchera de se prémunir contre ça qui va arriver encore une fois, qui va recommencer, parce que l'espèce humaine, l'être humain, est voué à recommencer ça encore et encore, et comment se prémunir contre ça.
Ouais.
Et j'avais lu qu'effectivement Alain René, quand il fait ça en 56, il est déjà en train de dire attention à ce qui se passe en Algérie, attention à ce qui se passe dans la guerre d'Algérie, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire encore un nouvel holocauste, un nouvel acte comme ça ignoble en Algérie, et finalement dans tout ce qui va arriver, et puis... Malheureusement, j'ai l'impression que le reste du XXe siècle va lui donner un petit peu raison.
Le texte, t'as raison, est très très beau.
Ah, magnifique.
C'est un texte de Jean Cayrol, qui était lui-même rescapé des camps. Ce qui est fou, c'est que c'est à un moment, nous on s'en rend pas compte, mais personne ne parlait de ça à l'époque. En fait, 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout ça c'est derrière
nous.
C'est
tabou. Hein,
c'est tabou, on oublie, les survivants ne parlent pas. On les invite pas à parler aussi, hein, de toute façon.
On leur laisse pas
la place pour parler en fait, de ce qu'ils ont vécu. Allez, c'est trop atroce, vous avez souffert. Nous aussi, on a souffert, plus personne n'en parle. Et ça, c'est ça qui est incroyable, c'est que ce film va déterrer un peu, en fait, ces cadavres enfouis sous le tapis pour montrer que oui, c'était il y a 10 ans, qu'il faut regarder l'histoire en face. Et encore, il le fait avec juste un film de 32 minutes, donc c'est assez court. Mais en même temps, c'est vrai que 10 ans après, c'était aussi... le reflet de l'état de la société et des recherches historiques, parce qu'on n'avait pas encore... Enfin, tu vois, Lanzmann a reproché à René ces différentes choses, mais en même temps, en 1955, 10 ans après la fin de la guerre, on ne parle pas encore très, très bien de ça, et les recherches historiques ne sont pas encore à un niveau aussi avancé qu'aujourd'hui. Et donc ça, c'est vrai que lui, il va...
Il fait le choix de ne pas hiérarchiser les souffrances et il met tout le monde, effectivement...
Après, c'est un court-métrage, donc forcément, il faut aller vite, quoi. Mais en tout cas, lui, il va en parler et il a... Enfin, on peut le souligner, quoi.
Bien sûr. Ouais. Donc, Nuit et brouillard d'Alain René, qu'on vous invite à voir ou revoir, bien sûr, c'est beaucoup plus important que de voir Nuit et brouillard d'Alain René que Le monde du silence de Jacques-Yves Cousteau. Film intéressant, mais qui a effectivement mal vieilli, comme on en a parlé avec Esther. Voilà qui conclut notre discussion de ce troisième thème de notre émission sur 1956. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, on est toujours avec Esther Brejon, journaliste cinéma, et on s'en va vers le tour du monde final de notre émission. C'est parti. Un tour du monde qui, comme on vous le rappelle, nous permet de discuter, de parler de nos films favoris, de tous ces films dont on n'a pas pu parler pendant l'émission. Alors, on vous rappelle, hein, on a parlé de plein de choses dans cette émission sur 56. On a discuté de La prisonnière du désert, de John Ford. On a parlé de Planète Interdite, des Soucoupes Volantes attaquent. On a parlé des Profanateurs de Sépulture, de Don Siegel, de tous ces films de science-fiction. On a parlé, bien sûr, des Dieux créent la femme avec Brigitte Bardot. Là, on a évoqué toute cette renaissance du documentaire avec Le Monde du Silence, Nuit et brouillard d'Alain René et Le Mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot. Et maintenant, toi, Esther, tu voulais, avant qu'on termine cette émission, nous parler d'un film, toi, qui est ta petite reco de cette année 56. Quel est-il ?
Alors, il s'agit d'un film de Nicolas Ray, Derrière le miroir. Donc déjà, Nicolas Ray, c'est un cinéaste que j'adore, le réalisateur de Johnny Guitar, La fureur de vivre, et beaucoup d'autres chefs-d'œuvre. Et voilà, Derrière le miroir, j'ai l'impression que c'est un de ces films qui est un peu moins connu, avec l'incroyable James Mason.
J'adore James Mason.
Ah, moi aussi. Je l'aime, je l'adore, cet acteur britannique. Pour moi, c'est un des meilleurs acteurs anglais de tous les temps.
Absolument.
Donc, Derrière le miroir, ça raconte l'histoire d'Ed Avery, qui est instituteur et qui est aussi standardiste pour une société de taxi le soir quand il sort de l'école. Il a ce petit job pour arrondir ses fins de mois. Pour pouvoir vivre selon l'American Way of Life, encore et toujours.
Toujours, hein.
Voilà, donc il lui faut sa petite maison pavillonnaire, sa télé, les soirées bridge entre amis. Mais il a un constat un peu terrible au début du film. Il dit à sa femme, quand il rentre d'une soirée, « Est-ce que nous sommes ternes ? » J'ai l'impression qu'on est ternes. Il a tout ce qu'il faut, il remplit toutes les cases et en même temps, sa vie ne lui convient pas. Il tombe malade, il a un traitement à base de cortisone et petit à petit, sa personnalité va évoluer et le vernis social va petit à petit se fissurer et il va devenir totalement différent, cet homme doux, instituteur qui a ses relations avec les enfants, avec les élèves, qui est travailleur, qui veut tout faire pour donner à sa famille un cocon parfait. Et petit à petit, il va devenir autoritaire, sûr de lui, il va partir dans des délires de toute puissance et moi j'adore parce que c'est là qu'on voit toute l'amplitude du jeu de James Mason qui peut jouer avec son flegme britannique des hommes très, très doux et très calmes et en même temps qui peut jouer des hommes névrosés, tourmentés, qui deviennent totalement torturés et fous alliés. Et donc la deuxième partie de ce film montre ça, ce personnage qui en fait va tout faire pour ne pas être terne, comme il le disait au début du film, et qui va vouloir vivre à 100 à l'heure, mais qui va totalement devenir fou, et ça va partir en couille. Et voilà, je trouve que c'est un très bon film de Nicolas Ray, qui est un peu moins connu, mais avec un James Mason vraiment...
Du coup, c'est ta recommandation en cette année 56, Derrière le miroir de Nicolas Ray. Merci beaucoup, Esther. Moi, je vais profiter de ce tour du monde pour placer ma petite reco à moi, et pour vous emmener en Asie, et plus particulièrement au Japon, puisque c'est un pays, et puis même l'Asie, c'est une partie du monde dont on n'a pas l'occasion assez régulièrement de parler dans Année Lumière, mais ça me tient à cœur. Et je voulais choisir, du coup, en 56, un film japonais, La rue de la honte, Akazen Shitai, de Kenji Mizoguchi, qui est le dernier film de Mizoguchi, qui est un des grands réalisateurs japonais avec Ozu, avec Kurosawa. Et qui est un réalisateur qui a fait près de 100 films entre 1923 et donc 1956, dont des films dont vous avez peut-être entendu parler, L'intendant Sancho, La vidéo Haru, Femme galante, Les contes de la lune vague après la pluie, L'impératrice Yang Kuai-fei, plein de films comme ça. Alors La rue de la honte, le film dont je voulais parler, ça raconte le quotidien de prostituée d'une maison close de Tokyo, entre les problèmes d'argent, les problèmes personnels et les soucis moraux et politiques, alors qu'une loi anti-prostitution est en train d'être justement débattue au même moment par le gouvernement. Et donc on a ce quotidien-là de ces prostituées-là. C'est un film donc qui nous montre déjà des personnages dont on n'a pas l'occasion qu'on n'a pas l'occasion de voir assez souvent au cinéma, qui donc est ce groupe de prostituées. Attends, on les voit dans leur quotidien, on les voit comme des personnes tout simplement. On les voit dans ces personnes qui gèrent les fins de mois difficilement, qui ont des problèmes avec leur famille, ces femmes qui ont un enfant aussi et qui se prostituent d'une autre façon pour pouvoir vivre. On a tout ça encapsulé dans ce film-là, la rue de la honte. Et je trouve que c'est un bon film pour découvrir Mizoguchi, puisqu'on va retrouver notamment les grands thèmes de Mizoguchi, qui est un grand cinéaste de la condition de la femme japonaise. Hein. Dans toute sa filmographie, on va avoir énormément de films sur la condition de la femme japonaise, que ce soit des films de Moyen-Âge ou de 17e, 18e siècle, des films d'époque, ou que ce soit des films comme La rue de la honte, qui est un film... dans les années 50 japonais, qui parle effectivement de la condition féminine au Japon. Et donc, c'est un immense portraitiste de la femme, Mizoguchi. On peut le voir dans ces 100 films qu'il a fait, il y a beaucoup de films sur les femmes et sur comment la femme, tout au long de l'histoire japonaise, a dû s'adapter, a dû enduré, a dû absorber tous les affres et tous les tourments de la société japonaise. Et finalement, c'est elle la première victime de la société japonaise avant tout, puisque ces prostituées, effectivement, ben, elles se prostituent, mais elles sont avant tout victimes. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'elles sont victimes de leur propre statut. Bref, Mizoguchi, pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément, c'est surtout une composition de plans assez folle, assez délicieuse. C'est-à-dire qu'on va avoir des plans tout en profondeur, on va avoir, vous savez, ces portes japonaises qui s'ouvrent. Et donc, on va avoir un plan où on va avoir deux personnes qui boivent le thé, une porte coulissante qui s'ouvre, qui révèle en arrière-plan une cour, et on va avoir trois autres personnes dans cette cour-là. Et donc, on a subitement un plan avec huit personnes qui discutent, et tout le monde est visible, et tout le monde est là. Et donc, il y a une composition assez folle, un peu comme chez Ozu d'ailleurs. Hein. Mais Mizoguchi va lui mettre des mouvements de caméra assez amples, et à faire bouger ses personnages et toujours avoir cette composition assez folle. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce film-là, et surtout c'est Mizoguchi en plus, et je vous invite c'est pour ça que je vous invite à découvrir Mizoguchi, qui comme ça, Mizoguchi, ça fait pas forcément rêver, parce que bon, ah, Mizoguchi, des gens qui parlent dans des pièces, ça va être relou, etc. Et surtout, c'est un cinéma qui est plein de vie. Dans le sens où, dans un plan de Mizoguchi, on va avoir une marmite qui est en train de bouillir, on va avoir une rue derrière avec des passants qui bougent, on va avoir une ville qui bouge en arrière-plan, on va avoir un téléphone qui sonne, quelqu'un qui fume. On a un plan qui est constamment en train de bouger, en train d'évoluer. Et j'aimerais terminer tout simplement par dire que ben, le cinéma de Mizoguchi, c'est un cinéma où l'image est littéralement habitée, c'est un cinéma où il fait bon être. Donc je vous recommande, hein, c'est ma petite reco de cette année 56, La rue de la honte de Kenji Mizoguchi. Voilà pour notre tour du monde et voilà qui conclut notre émission d'Année-Lumière sur 1956. Je voudrais remercier Esther d'avoir été mon invitée, d'avoir pu échanger sur cette année 56. Merci beaucoup Esther.
Merci à toi.
J'aimerais rappeler à nos auditeurs que s'ils ont aimé l'émission et que s'ils aiment cet épisode et même l'émission en général, à ne pas hésiter à partager cet épisode sur les réseaux, à en parler, à commenter. Ça nous fait toujours très plaisir pour les différents retours qu'on a. Je remercie Antoine puisque nous enregistrons dans le studio Tsugi Radio de la Villette à Paris. Du coup, Antoine qui a été d'une aide énorme pour nous aider effectivement à animer cette émission ensemble. Donc je remercie, merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Tsugi de nous accueillir. Et je vous remercie vous auditeurs de nous avoir écoutés et je vous dis à très très vite au mois prochain pour un nouvel épisode d'Année Lumière. Salut, salut,
salut.